la une de ce journal, les autorités de Kabambare et Omaniema craignent des éventuels affrontements des milices dans leur territoire. Ils ont dû à une délégation de la MONU qui était sur place. Vous suivrez dans ce journal la réaction de William Swing à ce sujet. À la une également, ce cri de détresse des passagers des bateaux bloqués à Bandoudouville. Ils vivent dans des conditions précaires depuis 2 semaines. Ils demandent aux autorités un autre moyen de transport. Bonjour à tous. Les autorités de Kabambare au Maniema craignent des éventuels affrontements entre la milice Raia Mutomboki et les Intera Amwe en provenance du Sud Kivu. Elles ont exprimé leur inquiétude à une délégation de la MONUC en mission ce week-end à Wamaza, territoire de Kabambare. Qu'est-ce qui peut être fait pour éviter ces affrontements? C'est la question que Gabriel Waminia a posée à William Swing en visite à Kindu. Suivez sa réponse.
Vous savez, autour du pays, surtout à l'est du pays, il y a encore les choses qui restent à faire. Je crois que ces situations comme cela soulignent 2 points de la transition qui ne sont pas encore achevés. Premièrement, il n'y a pas tous les milices congolais qui sont allés dans les centres de brassage et recyclage. Et il faut faire ça si vite possible pour assurer la paix et pour établir une bonne armée républicaine. Deuxièmement, malgré le progrès que nous avons fait, il reste des demeure entre 6 000 et 8 000 FDLR, c'est-à-dire les ex-FAR et les Inter-Hamwe. Nous avons pu répartir jusqu'à aujourd'hui à peu près 15 000, mais il reste entre 6 et 8 000. Et là, il faut faire en sorte pour qu'ils regagnent le pays, le parti de Rwanda, mais aussi d'Ouganda et quelques centaines du Burundi.
À Massissi au Nord Kivu, ce sont les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique ISP Massissi qui dénoncent diverses tracasseries de la part des militaires et policiers de la brigade Charlie. Ces étudiants se disent traqués, tabassés et leurs biens extorqués par ces militaires sans motif. Dimanche dernier, par exemple, un étudiant a été passé à tabac en plein marché par ces militaires. Un cas qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres enregistrés récemment selon eux. On écoute un étudiant de l'ISP Massissi jouant au téléphone.
Nous sommes inquiets à cause de notre sécurité d'assurer l'expédition d'un courrier de nos autorités académiques vers Goma. Alors, j'ai été menacé par les militaires FRDC. Ils m'ont boxé et mes condisciples sont venus et ils m'ont arraché entre les mains de ces PN FRDC. En date du 15 juillet, les FRDC sont venus dans l'auditoire nous arracher un étudiant. Alors, il y a eu un affrontement entre les étudiants et les FRDC. On se demande comment est-ce que nous allons affronter la grande session lorsque nous nous attendons à des menaces successives, raison pour laquelle nous demandons aux autorités compétentes de prendre des mesures qui s'imposent afin que cette situation puisse être décantée.
Contacté, le commandant de la brigade mixée Charlie, dont les militaires sont déployés dans Massissi Centre, dit ne pas être au courant de cette situation. Il promet toutefois d'enquêter sur ces allégations. Restons justement au Nord Kivu avec les 100 jours du gouvernement provincial ce mercredi 8 août. Quel bilan en tirer? En tout cas, la population du Nord Kivu se dit impatiente de voir les choses changer. Le gouverneur de province qui a réuni la presse locale ce mercredi affirme, lui, que faire le bilan de ces 100 jours, c'est faire l'évaluation d'un parcours du programme quinquennal. Il les appelle donc à la patience. Sylvestre Kilolo était à ce point de presse.
C'est devant une vingtaine de journalistes de la presse locale que le gouverneur et son homologue, accompagné de son gouvernement, a été mis en face des frustrations de la population, nomination des personnes appartenant à sa tribu, manquer de freiner la violence dans la ville en particulier et à travers la province en général, rigueur contre la fraude près de Goma, mais laisser faire à Kassindi dans les Grands Nord. Voilà autant de charges que l'opinion fait au gouverneur Julien Paluku. Le gouverneur qui qualifie le bilan d'aujourd'hui d'une évaluation des parcours et non des présentations des résultats programmés pour 5 ans, croit que le souci de faire mieux est toujours là. Les accès routiers ont commencé à être réhabilités, les descentes à travers la province ont été faites, les différents chantiers ont été amorcés. Les chefs de l'exécutif relèvent cependant les contraintes qui limitent certaines actions. C'est par exemple la rétrocession des 4 au lieu de 20% pour réaliser tous les projets. Selon lui, dans une province à gestion difficile, une zone fortement militarisée, il est tôt d'atteindre les merveilles. À cela s'ajoute l'héritage des groupes armés étrangers qui opèrent à travers les territoires, c'est l'insécurité. Quant à la fraude, M. Julien Paluku dit que le Nord-Kivu occupe la quatrième position dans la contribution du budget fiscal national avec 3 500 000 dollars par mois. Du gouvernorat du Nord-Kivu, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Depuis quelques minutes de la dernière audience du procès des présumés assassins du docteur Kambale Kisoni à Butembo au Nord Kivu, le prononcé du jugement des présumés assassins, parmi lesquels 3 Congolais, 4 Ougandais et 2 Kenyans, se déroule en ce moment. À côté d'eux, il y a 6 militaires de la 2e brigade intégrée, accusés de s'être servi de l'argent récupéré auprès des bandits lors de leur arrestation. Le verdict est donc attendu cet après-midi, comme nous le dit Étienne Mouindo, qui assiste à ce procès. Des rapports des autorités locales du Nord Ubangi font état de la circulation d'armes de guerre comme des AK-47 dans cette partie de la province de l'Équateur, notamment dans les localités situées le long de la frontière avec la République centrafricaine. Selon le commissaire de district du Nord Ubangi, cette situation qui s'est accentuée avec les démobilisés sortis des rangs des FRDC ne date pas d'aujourd'hui. On écoute le commissaire de district Victor Malungila au micro de Dominique Oulombi Mungampangi.
Je suis au courant de cette situation. Je dois vous dire que le Nord Ubangi a connu beaucoup de mouvements sur ce plan-là. Tout d'abord, le départ du président Mobutu. Il y avait des armes qui étaient restées, non récupérées et cachées par-ci par-là. L'entrée de l'AFDEL aussi. À son départ, les armes aussi étaient cachées par-ci par-là. L'arrivée de MLC, la même chose. Donc, il existe effectivement des armes cachées par-ci par-là. Ceci ne veut pas dire que les armes sont visibles et qu'on les laisse comme ça. Démobilisées ou pas, nous arrivons à petit à petit à trouver quelques armes par-ci par-là. Dernièrement, dans un village Ziamba ici, on a trouvé 2 armes cachées, on les a récupérées. Je pense qu'avec le commandant Fardessel, on va tout faire pour avoir l'autorisation d'organiser un bouclage dans des villages riverains, parce que c'est là où les armes sont cachées.
Direction Bandundu avec ce coup de pouce aux démobilisés à Kikwit. Le programme national de démobilisation a remis hier à 89 démobilisés des vélos. Ces ex-combattants ont terminé leur formation en élevage. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités politico-administratives, militaires et de la société civile. Fabien Kambizi.
Au total, 650 démobilisés du premier groupe qui ont suivi une formation en élevage, menuiserie, maçonnerie, conduite auto, recevront leurs premiers bénéfices au fur et à mesure au niveau des ex-conadaires Bandundu à Kikwit, appuyés par le Bureau international du travail. La cérémonie d'hier a permis à 89 éléments d'entre eux ayant choisi l'élevage et aujourd'hui qualifiés et capables de soigner les porcs de bénéficier des vélos en attendant leur kit professionnel, le matériel promis pour leurs activités. Ces démobilisés sont issus des centres de formation des TESF, Oshado et Mao de Kikwit 3. Selon les responsables de l'unité d'exécution du programme national à Kikwit, cette remise de vélos aux démobilisés et prochainement des kits professionnels symbolise la transformation directe des démobilisés en opérateurs économiques pour leur propre prise en charge. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Reprise ce mercredi du procès sur l'assassinat du journaliste Serge Maéché au tribunal militaire de garnison de Bukavu. À l'ouverture de l'audience, le tribunal a poursuivi l'audition des différents témoins. C'est notamment 2 éléments de la garde républicaine qui auraient promis la mort à Serge Maéché. C'était au début du mois de mai dernier, lors d'une vive altercation qu'il avait eue avec ses 2 militaires près de son habitation. Notez également que la veuve du journaliste est invitée par le tribunal. Elle a confirmé que son mari lui avait fait part des menaces de mort que lui avaient proférées ces éléments de la garde républicaine. Pour le moment, le procès se poursuit. Sud Kivu toujours, là près de 40% du marché des médicaments échappe au contrôle des autorités. C'est l'une des causes de la prolifération des contrefaçons et des médicaments périmés. C'est ce qui ressort d'un rapport qui fait suite aux enquêtes conduites le mois dernier par l'inspection provinciale de santé, l'OMS et des délégués du ministère de la Santé de Kinshasa. Le président des pharmaciens du Sud Kivu demande l'arrêt des ventes clandestines des médicaments. René Bissimois au micro de Adolphe Ngoy.
Les rapports nous offerts par l'inspection de la santé, 60% des médicaments sont déjà contrôlés. Et les grandes conséquences de ces 40% qui n'est pas contrôlé, c'est la mort subite des populations, la prise de médicaments périmés, la prise de médicaments dont la qualité ne répond pas aux exigences de la maladie. Ça crée la résistance dans les corps. Et parfois, ce sont des complications qui en arrivent. Que l'État puisse fermer les pharmacies qui ne tiennent pas compte de ces mesures conservatoires, soit arrêter les personnes personnes qui utilisent ces médicaments sans avoir la formation en médecine avant de faire la vente des médicaments.
Les passagers des bateaux bloqués à Bandundouville dans le cadre de l'opération de lutte contre la coupe illicite de bois se plaignent. Ils déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de vivre depuis 2 semaines. Ne sachant plus récupérer leurs frais de transport auprès du transporteur, ils demandent au ministre provincial de l'Environnement qui bloque ces bateaux de leur trouver un autre moyen de transport. Basile Bakoumbane s'est rendu sur les lieux.
Ils sont plus d'une centaine de passagers perchés sur de grimes dans le barge, en majorité de femmes portant de bébés, deux élèves qui vont en vacances et autres marchands qui vont vendre leurs produits à Kinshasa. Partis des Douma depuis le 21 juillet dernier, ils se sont vus bloqués depuis 2 semaines au port de Bandundouville. Leur seul péché, c'est d'avoir embarqué sur un bateau transportant de marchandises jugées suspectes. Depuis lors, ils sont exposés à des intempéries et mènent une vie très précaire. Voilà pourquoi ils demandent au ministre de l'Environnement qui a fait bloquer ce bateau de leur trouver un autre moyen de continuer le voyage avec leurs biens. Contacté à ce propos, le ministre provincial de l'Environnement, Roger Pembekoko, dit ignorer la présence des passagers, étant donné que le bateau bloqué ne sont que des grumiers et non de bateaux passagers. Du côté du cabinet de gouverneur, on affirme avoir entrepris des démarches pour évacuer le passager le plus vulnérable. Symphorien Mapamba, conseiller chargé des questions sociales et familles du gouvernorat, précise que près de 200 d'entre eux ont voyagé déjà grâce aux efforts de l'autorité. Aux dernières nouvelles, un de deux bateaux pourrait lever l'ancre dans les heures qui suivent. Cela après s'être acquitté de frais de la province. De Bandundouville, Basile Bakoumbane, Radio Okapi.
La province de Maniema de plus en plus désenclavée, cela grâce à la reprise du trafic fluvial entre Kindu et Ubundu en province orientale. Un deuxième bateau de la Société nationale des chemins de fer du Congo, le MS Lokando, et 2 barges d'une capacité de 50 tonnes chacune ont été réhabilitées pour faciliter le trafic entre les 2 provinces. Les travaux, dont le coût s'élève à plus de 300 000 dollars américains, ont été exécutés grâce au financement du Pool Fund et des projets QUIPS de la MONUC. Ces bateaux ont été remis hier à la SNCC. Écoutez son directeur, Alimasi Bin Muyungi. Il est au micro de Gabriel Wamenya.
Ce projet a des résultats multiformes. D'abord, du point de vue circulation des biens et des personnes, grâce à ce bateau. Si nous arrivons à effectuer 2 voyages par mois entre Kindu et Ubundu, nous aurons à assurer le transport des passagers partant de Kisangani vers Kindu en passant par Ubundu et vice-versa. En plus, nous avons été en contact avec des opérateurs économiques de la province orientale qui s'intéressent à la province du Maniema qui est en train de reprendre petit à petit vie. Également de liens qui vont pouvoir se tisser entre la province du Maniema, la province orientale et pourquoi pas la province du Katanga. Des commerçants de Kisangani estiment qu'ils peuvent facilement importer des véhicules partant de la Tanzanie via Kalemie et ces véhicules pour atteindre Kisangani doivent nécessairement transiter par Kindu et pourquoi pas prendre notre bateau en route vers Ubundu et jusqu'à Kisangani.
Au Kassai oriental, à peine lancé le mois dernier, l'exploitation artisanale de gisements de malachite dans le groupement de Bakwa-Chimuna, dans le territoire de Miabi, suscite déjà de la polémique. Le comité pour la démocratie et le droit de l'homme, basé à Kabeya-Kamwanga, est monté au créneau pour dénoncer l'utilisation des enfants dans le transport de ces minerais. L'administrateur du territoire annonce qu'il se rendra sur place pour enquêter sur cette affaire. Le point de la situation avec Julien Niamouni.
L'exploitation de ces gisements a commencé depuis 1 mois dans le secteur de Kakangai. Et selon Azarias Kabamba, président du CDDH, Comité pour la démocratie et les droits de l'homme à Kabeya-Kamwanga, des exploitants artisanaux utilisent les enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans pour le transport des sacs de minerais de 45 kilos pour une modique somme de 1000 francs congolais par sac.
Selon notre code minier, même selon la convention sur les droits des enfants que le Congo a ratifié, même dans notre constitution, les enfants n'ont pas de place dans des mines. Mais ce qui m'étonne, dans les mines de Bakwa-Chimuna, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants de 12 jusqu'à 17 ans. C'est pourquoi je demande à nos autorités, tant politiques que policières, de faire respecter les lois du pays et de faire sortir les enfants dans les mines.
Contactez Mme Philomène Chidibi, administrateur du territoire par un intérim de Miabi, reconnaît que l'exploitation de malachite dans son territoire est effective. Cependant, elle ne dispose pas d'informations précises sur l'utilisation des enfants pour le transport du minerai. Elle envisage s'y rendre dans le courant de cette semaine, notamment à Bakwa-Chimuna. Elle déplore aussi le conflit qui a opposé les 2 chefs traditionnels qui a fait 3 blessés graves. Julien Niamouni, Mbujimayi, Radio Okapi.
C'est donc à Mbujimayi que nous mettons un point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.